L'espérance est dans le prêt. Je voudrais reprendre, dans un premier temps reprendre et puis commenter, le beau texte de Bernanos, qu'Yves Daniel a cité tout à l'heure, une conférence que donnait Georges Bernanos en 1945. Et au fur et à mesure que je vous entendais parler cet après-midi, j'en mesurais davantage la pertinence. Bernanos, dans cette conférence, disait ceci. J'insisterai sur les citations que j'ai envie de développer par la suite dans le commentaire. Bernanos disait « Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance ?» L'espérance est une détermination de l'âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions, des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus difficile des victoires que l'homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle « À quoi bon ?» L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Les pessimistes sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire par ceux qu'ils ont gardés d'intact, de pur, par ceux qui restent à nœud de leur enfance, si profond qu'il faille chercher. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même est déjà disposé à la trahir. Si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, point d'interrogation, si l'opération délicate de l'amputer de sa part de divin, ou du moins d'atrophier systématiquement cette part jusqu'à ce qu'elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne circule plus, aboutissait à faire de lui un animal féroce, ou pire encore, une bête à jamais domestiqué. Il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est d'aimer. Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance. Elle s'imagine y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Fin de citation. La plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. Nous devons donc nous demander quelles sont les causes de désespoir, quels sont les désespoirs qu'il faut surmonter pour découvrir la valeur de l'espérance. Nous allons essayer de pointer ces désespoirs de manière microscopique, en fixant notre objectif sur le microcosme qu'est devenu le monde agricole, et le fait qu'il soit devenu un microcosme est déjà une première cause de désespoir, puis de manière macroscopique, en élargissant notre objectif sur le monde, puisque nous vivons à l'heure de la mondialisation. L'attention a été attirée ces dernières années sur les suicides dans le monde agricole. On a avancé des chiffres, mais vous le savez, il y a dans toute manifestation les chiffres des organisateurs et les chiffres de la police. Habituellement, les chiffres des organisateurs sont supérieurs aux chiffres de la police. Ici, c'est différent. Les chiffres des organisateurs de suicides sont inférieurs aux chiffres de la police. Nous avons, vous le savez, organisé une journée de prière à Sainte-Anne-d'Auray qui a eu le mérite d'attirer l'attention sur cette réalité. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'on en parlait beaucoup plus après cette journée qu'avant. Mais cette journée a eu surtout le mérite d'être une journée de prière, c'est-à-dire de mobiliser des énergies spirituelles qui sont nécessaires pour que l'homme ne soit pas amputé de cette part de divin qu'évoquait Bernanos. Outre les difficultés personnelles que peut rencontrer tout un chacun, les raisons qui poussent à bout les agriculteurs sont multiples et vous les connaissez bien évidemment beaucoup mieux que moi. Mais il n'est pas inutile de les redire ici, où nous les connaissons, mais aussi ailleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. L'évolution de la place des agriculteurs dans la société. Je disais tout à l'heure que le fait que le monde agricole soit devenu un microcosme est déjà une source de désespoir et d'inquiétude. La détérioration de leur image, la déliquescence des liens dans le monde agricole, l'isolement, Jean-Yves l'a magistralement exprimé tout à l'heure, là où il y avait une communauté rurale, il n'y a plus que des individus qui s'observent en chien de faïence, quand ce n'est pas des rapaces qui s'acharnent pour voir de quoi ils pourront s'emparer. Remplacer la baisse des revenus par l'extension des surfaces aboutit à la disparition d'un nombre toujours plus grand d'exploitations et contribue à augmenter le vide du monde rural, sa désertification. Autre cause d'inquiétude et de désespoir qu'il faut surmonter, la perte d'autonomie dans la conduite de l'exploitation, l'ampleur croissante des tâches administratives, les injonctions normatives et sanitaires, la surcharge de travail, l'endettement, la faiblesse des revenus et la dépendance aux aides publiques, même si Jean-Yves tout à l'heure en a vanté le mérite. À cela s'ajoute parfois la rupture de la transmission des traditions agricoles familiales. Ces différents facteurs concourent à créer un profond sentiment de malaise chez de nombreux agriculteurs pour qui ce métier correspond à un choix de vie. Alors, quand des difficultés s'instaurent dans la sphère professionnelle, elles rejaillissent nécessairement et se diffusent dans toutes les sphères de la vie. Tout cela est aggravé par le fait que les agriculteurs travaillent sur la vie. Et si le métier perd du sens, c'est la vie elle-même qui vient à perdre du sens. Cela est aggravé aussi du fait que dans l'agriculture, les patrimoines professionnels et les patrimoines familiaux sont très fortement imbriqués. Ils se confondent. Et donc, il est très difficile de se protéger véritablement. Autre cause de difficulté, autre désespoir à surmonter, le sentiment de travailler pour payer des dettes. Il est difficile d'affronter le regard des autres quand on travaille et qu'on ne s'en sort pas. Il est difficile d'assumer l'endettement, les prix non rémunérateurs, l'augmentation des coûts, la pression des services contentieux des créanciers qui mettent la pression pour être remboursés. Il faudrait agir rapidement, mais souvent le malaise ressenti et les pressions exercées, au contraire, paralysent et empêchent d'agir avec sérénité. Alors, c'est l'engrenage et souvent, peu à peu, les paysans sont asphyxiés par les crédits à court terme, les huissiers, les entreprises de recouvrement de créances, la rapacité des autres agriculteurs. Certains s'abrutissent par le travail, d'autres ne voient pas de solution d'avenir, enfermés dans un monde matérialiste, économique, financier, amputé de la part de divin qui seul donne du sens. Le paysan voit son univers se rétrécir et son avenir s'obscurcir. Mais l'agriculture n'est pas une île et son sort n'est pas différent de celui du monde qui l'entoure. À l'heure de la mondialisation, il nous faut élargir notre objectif à la situation économique mondiale sur laquelle le Saint-Père a attiré notre attention dans l'encyclique Laudato Si. L'espérance chrétienne est confrontée aujourd'hui à une violence en gants blancs. La violence d'un libéralisme économique sans fin et sans conscience qui n'a pas de vue à long terme sur l'humanité. Ces violences, elles sont nombreuses, elles sont bien connues. dégradation de la planète. Enrichissement considérable des plus riches, qui sont une minorité, et appauvrissement progressif, mais inéluctable, de tous les autres. Précarisation souvent menaçante pour un nombre de familles de plus en plus grand. Marchandisation des relations. Financiarisation de toute forme d'activité. Disparition, voire interdiction progressive du bénévolat. Marchandisation de tous les services et bientôt des corps, la GPA déjà nous y prépare. Nourriture falsifiée, santé même menacée par les impératifs financiers. Il y a aussi, dans nos sociétés soi-disant démocratiques, une autre sorte de violence, celle des institutions et des administrations dont le gigantisme et la standardisation rejettent les administrés dans l'anonymat d'un guichet ou, pire encore, d'un dossier informatique, aggravant ainsi les situations de souffrance réelle qui mènent au désespoir. Le sentiment d'impuissance et d'absurdité génère parfois des réactions violentes en réponse à une situation désespérante. Ce sont autant de signaux d'alarme face aux impasses d'un monde qui ne voit plus où il va. Il y a enfin la violence des éléments de langage. La fabrication d'une langue de bois, de discours anesthésiants, de paroles officielles qui masquent la noirceur de la réalité, d'un discours savant digne des médecins de Molière, d'une langue de clerc, d'un retour au nominalisme destiné à faire accepter des situations inacceptables en les exprimant en des termes incompréhensibles. Un chat ne s'appelle plus un chat, nous pourrions l'appeler un mammifère quadrupède à griffes rétractiles. Certaines circulaires de l'éducation nationale appellent un ballon un référent bondissant. Si un licenciement évoque le drame d'une personne privée d'emploi et d'une famille privée de ressources, un grand nombre de licenciements devient un plan social, une restructuration dans laquelle on est invité à voir une valeur positive pour l'économie globale. On peut même ne pas parler de décroissance, mais de croissance négative. Une personne qui est exploitée, qui est opprimé dans un système risque d'exploser à force d'oppression. Elle risque, elle peut se révolter contre le système. Aussi, on ne parle plus aujourd'hui d'opprimés, mais d'exclus. Circuler, il n'y a rien à voir. Un exclu ne peut plus rien, puisqu'il n'est plus dans le système. Sa révolte ne peut plus apparaître que comme une agitation stérile et sans danger pour un système qui s'impose à tous, à la manière des mythes et des oracles de l'Antiquité. Ce sont quelques exemples de ce que l'on pourrait appeler le langage politiquement correct, destiné à valoriser à tout prix le mythe du progrès en masquant la réalité toute simple. Et je crois que ce déni est sans doute la forme la plus aboutie, la plus haute et la plus sophistiquée de la violence, puisqu'il disqualifie par avance et de manière radicale ceux qui n'adhèrent pas à ce meilleur des mondes. Pour rencontrer l'espérance, nous disait Bernanos, il faut être allé au-delà du désespoir. Pour aller au-delà du désespoir, encore faut-il le nommer. Bien maladroitement, j'ai essayé de le faire. Bernanos disait encore, on ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité. Si l'espérance est dans le prêt, c'est parce qu'au fond, le prêt, c'est la vérité toute simple qu'il nous faut redécouvrir et nous réapproprier. La vérité toute simple, cette vérité qui est têtue et qui finit toujours par gagner, cette vérité, pour nous chrétiens, elle a un nom, elle porte le nom de celui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Tandis que Satan est le père du mensonge. L'espérance s'incarne dans un retour à la réalité. Et quand je dis la réalité, je veux dire la réalité complète. Pas la réalité réduite au matérialisme, qui n'est qu'une réalité tronquée. Si l'on amputait l'homme de sa part de divin, disait Bernanos, on aboutirait à faire de lui un animal féroce. Cette amputation n'est-elle pas la cause du ré-ensauvagement auquel nous assistons aujourd'hui? Quand on supprime la transcendance, quand la vérité est réduite au subjectivisme et au relativisme, alors la seule valeur qui subsiste, la seule valeur qui peut s'imposer, c'est la force brute qui fait des uns des prédateurs et des autres des bêtes domestiquées. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de renouveau de l'humanisme sans une redécouverte des valeurs spirituelles qui nous disent ce qu'est véritablement l'homme. Les remèdes aux maux actuels de l'agriculture et du monde sont d'abord des remèdes spirituels. Ils passent par la prière, par les sacrements, par l'Eucharistie, pour que la part de divin de l'homme ne tombe pas desséché comme un organe où le sang ne circule plus. Le renouveau, il passe aussi par la culture, par la réappropriation de notre histoire qui nous apprendra qu'il y a eu d'autres crises avant la nôtre et qu'elles ont été surmontées. La culture permet d'échapper à l'abrutissement du travail. Elle ouvre toujours des perspectives nouvelles qui permettent de ne pas se laisser obnubiler par les difficultés présentes et de ne pas s'y noyer. La culture, disait Jean-Paul II, c'est ce par quoi l'homme devient plus homme. Et nous ne pouvons lutter contre la déshumanisation qu'en apportant un surcroît d'humanité. Ce qu'apporte précisément la foi et la culture. C'est en étant plus homme, c'est en étant entièrement homme, que nous pouvons exiger que l'économie soit au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. C'est-à-dire en réalité au service de quelques-uns au détriment de tous les autres. L'espérance est dans le pré parce que le brin d'herbe qui apparaît comme le symbole même de la fragilité est capable de faire preuve d'une force et d'une vitalité surprenantes. Ce qui semble fragile est en réalité ce qui est fort, et l'herbe repousse toujours. Saint Paul écrit d'ailleurs « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». La Fontaine nous montre dans une de ses fables que face à la force aveugle du vent, le roseau est plus fort que le chêne. Et Pascal dira de l'homme qu'il est un roseau, mais un roseau pensant. Et c'est bien la raison pour laquelle il nous faut miser sur la pensée, la spiritualité, la culture. L'espérance est dans le prêt, parce que dans le prêt, le brin d'herbe n'est pas seul. Il est, si j'ose dire, plusieurs. Il est multitude. Et il nous faut, nous aussi, réinventer la solidarité des brins d'herbe enracinés. Refonder une culture de l'attention à l'autre. Qu'il faut réapprendre à ne pas considérer comme un concurrent, comme une proie, mais comme un ami. L'espérance chrétienne n'est pas un anesthésiant, contrairement à ce que disaient naguère les marxistes, la foi est l'opium du peuple. Non, l'espérance chrétienne n'est pas un anesthésiant qui nous fait attendre le bonheur dans un autre monde. Elle n'est pas un anesthésiant, et Bernanos nous dit qu'elle demande des efforts. Elle n'est pas seulement une résistance, elle doit être la preuve concrète d'une communauté agissante. Elle se conjugue au présent, dans tous les lieux de solidarité, de convivialité, dans tous les espaces de gratuité que nous sommes capables de susciter. Sous la lourde carapace de l'Empire romain finissant, germinait dans le secret la force insoupçonnée de la chrétienté naissante. L'espérance est dans le pré, parce qu'elle est le garant des germinations futures. Elle est la condition de la culture de vie qui s'oppose à la culture de mort. Elle est la condition de la vérité qui s'oppose au mensonge. L'Évangile nous le disait ce matin, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué. Ne nous laissons pas complètement aveuglés par cet écran de fumée. Le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est ce qui fonde notre espérance, qu'elle soit dans le pré ou ailleurs. Je vous remercie de votre attention.